Salut, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au menu aujourd'hui, l'info du jour, les greffiers rennais mobilisés ce lundi pour de meilleures conditions de travail et de rémunération. Une interview avec Faustine Sternberg du média d'investigation breton Splan pour une enquête au long cours sur les travers du port. Il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'un reportage à la rencontre de Nicolas, wikimédien en résidence au musée de Bretagne. Et puis une recommandation, il s'agit d'une conférence sur le temps du début de la vie. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Et vive l'arène.
Comme toujours, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous. Là, il s'agit des greffiers rennais en grève ce lundi 26 juin. Ils étaient une centaine réunis sur le temps du midi devant le tribunal judiciaire de Rennes, avec à leur côté des avocats mais aussi des magistrats. Rappelez-vous, dans un reportage réalisé il y a quelques semaines aux côtés du syndicat de la magistrature, Ségolène Marquet, juge, nous expliquait le rôle des greffiers.
Une décision d'un magistrat sans un greffier n'est pas une décision judiciaire. Le greffier met en forme et prépare tous les dossiers, prépare également et accompagne la rédaction des jugements, est présent à chaque audience, est souvent le premier interlocuteur des personnes quand elles contactent le tribunal. Et finalement, c'est un peu comme une courroie de transmission dans une juridiction. C'est un rôle essentiel.
Bon, alors, ce qui met les greffiers en colère, c'est l'annonce d'une nouvelle grille indiciaire pour leur profession à partir du mois d'octobre. Une grille qui détermine leur salaire. Et si cette évolution n'entraînera pas de perte de salaire, les augmentations sont jugées décevantes. Et surtout, elle implique cette évolution une perte d'ancienneté pour les greffiers en poste, qui, d'après les journalistes du quotidien Le Télégramme, mettront 3 à 4 ans de plus pour monter dans la hiérarchie. Cette mobilisation, elle arrive dans une profession où les conditions de travail sont dégradées. Et les greffiers se trouvent être la seule profession dans ce champ de la justice à ne pas avoir été revalorisée ces dernières années. Ils sont actuellement sur l'échelon B, mais avec une charge de travail importante. Le même jour, là, ce lundi 26 juin, à l'échelle nationale, d'autres mobilisations étaient organisées et une intersyndicale a été reçue dans l'après-midi par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Et ça, avant d'envisager la suite du mouvement, en sachant que les budgets seront, eux, votés au mois de juillet. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure de l'interview de cette émission. Faustine Sternberg, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste indépendante, vous êtes l'une des personnes salariées de l'équipe de Splan, un média d'investigation breton qui est indépendant, c'est important de le préciser, qui a sorti début juin une nouvelle enquête, la cinquième, c'est en tout cas le cinquième dossier, sur le thème de l'élevage porcin, les travers du port, c'est un titre digne de Libération, qui désigne en fait donc un dossier porcin que vous avez ouvert il y a un an. On va y arriver. On le redit, Splan, c'est ce média qui a été lancé il y a 2 ans maintenant. Vous fêtez donc 2 ans d'activité. La première enquête date de l'été 2021. Vous avez déjà pu enquêter sur l'ammoniac en Bretagne, la méthanisation ou encore les implants contraceptifs et sur des sujets qui ont en commun de mêler santé et agro-industrie. Qu'est-ce que ça donne au bout de 2 ans? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs en termes de dons collectés, de lecteurs atteint avec vos enquêtes?
Oui, alors on peut dire qu'on a atteint notre objectif déjà parce qu'on a réussi à se professionnaliser dans le sens où au début on n'était que des bénévoles à accompagner les enquêtes. Alors on salariait des journalistes pour réaliser les enquêtes, mais tout l'encadrement était réalisé par des bénévoles. Et aujourd'hui, grâce aux dons donc, des lecteurs, on a pu salarier 2 personnes, dont moi-même, qui assurons le travail de coordination et le suivi des enquêtes. Ce qui est un gros pas en avant pour nous. Ça nous permet vraiment d'être plus présents déjà sur les réseaux sociaux et d'essayer de développer nos enquêtes.
C'est ce qui vous a permis de développer aussi un peu un volet podcast qui n'était pas là au début?
Oui, alors ça c'est vraiment c'est un de nos objectifs qu'on commence à développer effectivement. En fait on a plein de projets mais vraiment ce qui nous manque toujours quand même c'est le temps en fait. Hein. On n'est pas assez nombreux, on aimerait pouvoir salarier d'autres personnes pour pouvoir faire des podcasts, pour pouvoir faire surtout plus d'enquêtes parce que là on fait 3 enquêtes par an et nous on aimerait bien plein, en faire plus. En fait, on a plein d'alertes, plein de sujets en stock.
Sur le sujet des équipes, donc vous faites partie des deux salariés de Splend, et puis autour de ça, des journalistes professionnels plutôt indépendants qui interviennent sur les enquêtes, et puis ces citoyens qui adhèrent à l'ONG. Vous êtes une ONG ?
Alors oui, on est une ONG ou une association. Alors après, les adhérents de l'association, ce sont surtout des journalistes. On est une vingtaine de membres qui sont du coup bénévoles, impliqués dans l'association. Et effectivement, après, on reçoit des alertes par mail, par message, qui nous permettent de voir après quel sujet on peut choisir.
En termes de dons, on ne se rend pas compte forcément du coût d'une enquête. Vous avez besoin de quelle somme à chaque fois pour financer une enquête ?
Alors, en moyenne, on calcule sur une enquête, c'est à peu près 20 000 euros, en sachant qu'on est vraiment dans la fourchette basse parce qu'on est vraiment économe à tous les niveaux, déjà parce qu'il y a pas mal de bénévolat. Il y a des enquêtes qui peuvent coûter beaucoup plus cher, mais voilà, ouais, à peu près 20 000 euros. Nous, on a un financement participatif, on va dire continu, qui nous permet d'avoir des dons réguliers, avec un objectif de 4 000 euros par mois. C'est pareil, c'est un minimum, c'est-à-dire que si on a plus, bah c'est plus d'enquêtes, donc c'est toujours mieux.
On donne tout de suite votre site internet pour vous retrouver et pourquoi pas vous soutenir financièrement. Ce site, c'est splend.org. On arrive à cette enquête, les travers du port, qui est en fait un gros dossier constitué de trois volets. Le premier volet a été publié il y a un an, à l'été 2022, au sujet d'une autre porcherie assez médiatisée, notamment sous cet angle des intimidations envers des lanceurs d'alerte. Il s'agit de la porcherie de Landunvez. On est en Finistère. On en a beaucoup parlé de cette année de cette porcherie. Vous êtes arrivé avant ça. Vous avez justement agi un peu comme des lanceurs d'alerte sur cette porcherie-là.
Oui, effectivement, nous en fait on avait fait un article pour justement annoncer le fait qu'il y avait un risque de régularisation d'un agrandissement qui s'était fait alors qu'il y avait eu des décisions de justice qui demandaient en fait de revenir sur cet agrandissement parce que il était finalement en termes d'impact environnemental, la justice avait estimé effectivement que l'impact était trop important. Et en fait malgré tout il y avait eu une nouvelle enquête publique et cette enquête publique il y avait vraiment de nombreux biais et c'est ce que nous on avait montré dans un article qui a été paru en juillet 2022. Et bah, par la suite, le préfet a quand même régularisé cet agrandissement. Et c'est là où, effectivement, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, même dans les médias nationaux. Ouais.
On peut parler d'un sujet incontournable lorsqu'on s'intéresse à la Bretagne, à l'imbrication d'enjeux santé et industrie, donc le sujet de l'élevage porcin. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir ce dossier au tout début des alertes ? On est venu vers vous en vous contactant.
Et c'est vrai que l'élevage porcin en Bretagne, c'est incontournable. C'est une des premières industrie agricole de la région et on est surtout la première région française en fait productrice de porc, donc c'est un impact réel sur le quotidien des habitants et effectivement on a eu beaucoup d'alertes sur des pollutions, notamment les pollutions de rivières.
Et le Finistère, dans cette région Bretagne, est vraiment un des départements clés dans ce développement de l'élevage porcin, puisque près de la moitié des cochons français, en tout cas élevés de façon industrielle, ils sont élevés dans ce département-là. Il y a eu un deuxième volet de l'enquête publié à l'automne 2022, là axé sur le sujet de l'eau. Je laisserai les auditeurs aller le découvrir en ligne sur le site splend.org. Et là, en ce mois de juin, on part alors pas très loin de Landunvez. J'ai regardé, on a une heure de route dans la commune de Plouvorne. On commence par dire le nom des deux journalistes qui sont allés enquêter sur place sur ce sujet de l'élevage porcin avec un fonctionnement un peu inédit puisque vous étiez en coproduction. Ça veut dire quoi ?
Alors oui, effectivement, il y a eu Christine Fachon qui travaille pour Splend et Florian Louison qui travaille pour Mediapart qui ont travaillé ensemble du coup sur ce sujet sur Plouvorne. Oui, c'était assez inédit pour nous puisque d'habitude, nous, on réalise les enquêtes et ensuite, on les diffuse auprès de partenaires comme Mediapart. Mais là, il y a vraiment un journaliste de Mediapart qui est venu travailler avec un journaliste de Splend, on va dire main dans la main. Tout simplement parce qu'ils avaient eu la même alerte que nous, ils étaient sur le même sujet, on s'est dit autant travailler ensemble. Plus on est nombreux, et bien, plus on sera efficace.
On peut imaginer qu'en plus c'est génial de bénéficier j'allais dire de leur image mais aussi de leur expérience sur le travail d'investigation. Pour vous c'est vraiment super.
Oui,
quoi.
Complètement, on est complémentaires parce que nous on a un ancrage local qui fait qu'on a une vraie connaissance du terrain, du territoire, des enjeux qu'il y a. Eux ils ont cette expérience en enquête donc c'est top.
Plouvorne, c'est une commune de près de 3000 habitants. On n'est pas très loin de Morlaix pour situer, donc en Finistère. ou ce qui rend visible l'impact de l'élevage sur l'environnement. D'abord, visuellement, c'est l'état de la rivière. Cette rivière, elle s'appelle l'Orne, et cumule tout un tas de problèmes en lien avec l'élevage porcin.
Alors oui, effectivement, dans cette commune donc, de 2900 habitants, donc je rappelle juste qu'il y a 80 000 porcs.
Ça fait 28 fois plus de porcs.
C'est ça, il y a 28 fois plus de porcs que d'habitants. C'est énorme et du coup, ça a un impact réel sur l'état de la rivière qui s'appelle l'Orne. Déjà, il y a une pollution au nitrate qui est très importante, ce qui a été relevé par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Nitrate, en fait, c'est une conséquence directe de l'épandage des lisiers sur les champs et donc du coup, des élevages porcins qui sont des gros producteurs de lisiers, ça se retrouve dans la rivière et ça fait qu'elle est impropre à la consommation, tout simplement parce que quand c'est supérieur à 50 mg par litre, on peut pas dire que l'eau est potable et ça fait qu'il y avait un captage d'eau potable sur cette rivière qui a dû être fermée, ce qui est quand même assez exceptionnel.
C'était en 2007 la fermeture.
La fermeture, c'était en 2007. Il y a eu beaucoup d'argent public qui ont été donné pour essayer de diminuer cette pollution et ça a pas été une réussite puisque même si ça a diminué, ça n'a pas permis de rouvrir le captage d'eau potable en fait.
Donc ça c'est pour le point de captage d'eau potable dans la rivière de l'Orne, une rivière aussi où des baisses de population de poissons ont été observées. Pas très loin, la baignade a été interdite de façon assez régulière. Alors on a dit près de 3000 habitants avec ce chiffre fou de 80 000 cochons élevés sur ce territoire. Des cochons qui donc viennent polluer l'eau mais aussi l'air. Et là, on parle d'ammoniac.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça rappelle notre première enquête sur la pollution de l'air à l'ammoniac. En fait, les élevages de tout type, et notamment les élevages porcins, sont contributeurs d'une émission d'ammoniac dans l'air qui, participe à la formation de particules fines, qui est une des premières causes de mortalité évitable en France. Et la commune de Plouvorne est finalement la première commune émettrice d'ammoniac en Bretagne. Donc, elle est vraiment... L'air est vraiment pollué, ce qui a un impact aussi pour la santé des habitants.
Des pollutions donc sur l'environnement. On peut aussi ajouter ce chiffre. Au passage, 80% des élevages sont des installations classées pour l'environnement. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir un impact négatif qui est lié en fait au modèle intensif puisque pour être classées de cette façon, c'est parce qu'en fait elles dépassent les 2000 animaux. Il y a donc des pollutions sur l'environnement mais aussi on découvre sur la démocratie locale de plusieurs façons en fait. Déjà parce qu'on trouve des liens très étroit entre ce secteur agricole et le secteur politique.
Oui, effectivement, on a retracé un petit peu les liens qui pouvaient avoir les élus avec l'industrie porcine. Ce qu'on a pu voir, c'est que par exemple, le maire actuel Gilbert Miossec est un ancien salarié d'une coopérative agricole porcine qui s'appelait Prestor à l'époque et qui aujourd'hui s'appelle Evalop et qui du coup est lié à de nombreuses exploitations porcines du territoire. Mais les anciens maires aussi avaient tous un lien en fait direct ou indirect avec l'industrie porcine. Du coup, ce qui effectivement peut poser question.
Et le maire actuel, dans le discours en tout cas, se veut plutôt rassurant. On retrouve un peu des éléments de langage qu'on retrouve à la FNSEA, le syndicat majoritaire dans le champ de l'agriculture, se veut rassurant en disant que des efforts sont fournis par les agriculteurs aujourd'hui. Si on parle de démocratie locale, ce qui peut être amusant, c'est que ce cochon, on le retrouve jusque sur les drapeaux des supporters sur le terrain de football.
Oui, ça c'est le petit clin d'œil qu'on voulait rappeler aussi dans l'article. C'est assez symbolique et montrer qu'en fait, il y a un côté identitaire sur le territoire lié à l'industrie porcine, ce qui peut se comprendre parce que c'est un gros employeur sur la commune, mais qui fait que on le retrouve en fait sur le drapeau des supporters. Et je voulais aussi dire qu'il y a eu en fait une première liste d'opposition qui s'est présentée aux élections municipales en 2020. Ça faisait des décennies qu'il n'y en avait pas eu, qui a quand même remporté 40% des voix et en fait qui était portée par le président de la société de pêche locale, donc avec un discours beaucoup plus porté sur la protection de l'environnement. Et pour un peu expliquer l'ambiance sur cette commune, c'est qu'il y a eu beaucoup de tensions. En fait, les élus d'opposition, depuis cette campagne, ils ont reçu des menaces, et notamment des menaces de mort. Il y a quand même eu 7 plaintes qui ont été déposées.
On sait que les lanceurs d'alerte, mais aussi les journalistes, les deux peuvent parfois se rejoindre, sont de plus en plus, en tout cas l'information est relayée par les médias, sujet à des intimidations. Est-ce que quand on est un média d'investigation breton comme Splan, vous les vivez ces intimidations? On sait qu'il y a notamment Inès Leroux, Morgane Large qui font partie de Splan et qui ont vécu ça.
Oui, effectivement, Morgane Large récemment, elle a connu un déboulonnage d'une de ses roues, c'était pour la seconde fois. Donc c'est vrai que c'est des pressions qui sont difficiles à vivre. Et c'est vrai que c'est hélas devenu des menaces assez courantes. Nous, là, sur cette enquête, on a aussi... il y a l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne qui, une fois qu'elle a appris qu'on était en train d'enquêter sur le sujet, a fait passer une lettre de mise en garde à tous ses adhérents pour les alerter qu'on était en train d'enquêter sur un sujet lié à l'industrie porcine et pour les alerter de surtout ne pas nous parler, en fait. Donc c'est pour montrer un peu l'ambiance qu'il y a.
L'imbrication entre ce secteur là de l'élevage porcin, de l'agro-industrie et les politiques locales, ça a des conséquences au moment des demandes d'agrandissement où des fois on peut un peu supposer qu'il y a des décisions qui sont prises pas toujours dans l'intérêt environnemental. Là justement dans la commune de Plouvorne, il y a un dossier en cours de constitution pour un agrandissement de ferme. Il y a eu un premier refus mais le sujet est toujours d'actualité. On peut la citer, hein, la ferme de Calarnoux, on trouve son nom dans l'enquête, qui souhaiterait augmenter sa production par 3, ça ferait 13 piscines olympiques de lisier, si on parle de conséquences très concrètes de ce que ça implique. Et c'est là que vous êtes vigilant à être un peu lanceur d'alerte aussi sur ce sujet.
Et oui, parce que c'est vrai qu'on montre quand même dans l'enquête à quel point le territoire est saturé d'exploitation porcine. Et en fait, cet agrandissement, cette course à l'agrandissement, elle continue parce qu'on a cette exploitation-là qui demande quand même donc 14 000 places en plus. Et ça, en fait, si elle atteignait cet objectif, elle deviendrait la deuxième plus grosse exploitation porcine de France. Avec, comme vous le disiez, effectivement, concrètement, ça voudrait dire 13 piscines olympiques de déjection chaque année, ce qui est quand même phénoménal sur un territoire qui est déjà saturé de lisier.
Et là, malgré les informations que vous avez accumulées, le maire de la commune vous dit non, il n'y a pas de sujet.
Oui, alors nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait eu un permis de construire qui avait été déposé en mairie en 2021. Mais effectivement, on a des échanges de mails qui le prouvent. Malgré tout, le maire dit qu'il n'y a rien. Et du coup, effectivement, il y a un petit doute là-dessus.
On sent un manque de transparence. Je termine en redonnant le site internet pour lire cette enquête dans son intégralité, puisque elle est très riche. C'est à lire sur le site splan.org, splan2n. Une enquête qu'on peut retrouver chez des médias partenaires. La liste bouge selon l'enquête. Là, évidemment, c'est à retrouver chez Mediapart.
Voilà, exactement, chez Mediapart, alors que sur d'autres enquêtes, parfois, on les diffuse, par exemple, sur France 3 Bretagne. Ça dépend des enquêtes, oui.
Et on essaye toujours de relayer en vulgarisant, en synthétisant un peu le propos ici dans l'émission d'information locale de Canal B. Je vous représente Faustine Sternberg, journaliste indépendante, l'une des membres de l'équipe salariée de Splan, ce média d'investigation breton et indépendant, surtout qui a sorti début juin le troisième volet d'une enquête sur l'élevage porcin, les travers du porc, c'est le nom de ce dossier, à retrouver donc en libre accès en français mais aussi en breton sur splan.org. Merci beaucoup.
Merci.
1, 2, 3. It's true.
Are You Coming Home par Miranda and the Beat, une nouveauté musicale repérée par notre programmateur Yann Barbotin, et qui est extraite de l'album éponyme de ce duo féminin US, un album sorti le 26 mai chez Ernest Jennings Records, et c'est leur premier disque. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être sur notre site internet canalb.fr. Tout de suite, on poursuit cette émission d'information locale avec un reportage. Et c'est en fait la rediffusion d'un reportage qui est passé dans cette émission le 16 juin dernier. J'étais partie à la rencontre de Nicolas Vigneron, un wikimédien en résidence au musée de Bretagne, au sein des Champs Libres, ici à Rennes. Ce dernier, il a commencé à contribuer bénévolement à Wikimedia, dont le volet le plus connu est Wikipédia. C'est aujourd'hui son métier d'être contributeur et il a du mal à s'arrêter, en se rajoutant quelques heures de travail bénévole le soir après le travail. Sa mission au sein de sa résidence, elle est double: enrichir les pages grâce aux ressources du musée de Bretagne et aussi former ses collègues pour poursuivre la démarche après son départ. Reportage.
La plupart de mes collègues disent: à quoi ressemble l'article sur notre institution, le musée de Bretagne? Et en fait, c'est pas forcément le musée le plus intéressant pour l'institution elle-même, parce que en fait, ce que veulent les gens, c'est voir les objets dedans et arriver en fait un peu comme des panneaux indicateurs dans la ville. Il faut mettre des panneaux indicateurs dans d'autres articles. Donc on peut partir effectivement d'une œuvre. La Brigitte du Ménézôme, qui est un peu notre Vénus de Milo du musée de Bretagne, une petite statuette antique qui a un article, un très bon article sur Wikipédia, et ça c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, parce qu'on met en avant non pas le musée lui-même un peu publicitairement, mais les ressources du musée ont permis de bâtir un article sur un objet assez majeur dans l'Antiquité rennaise. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Vigneron et je suis actuellement Wikimédia en résidence au musée de Bretagne. Je contribue sur Wikipédia et je forme aussi mes collègues à la contribution. Donc actuellement on est dans la salle des inventaires, très exactement, du musée de Bretagne. C'est le lieu où on a toute la documentation. Donc là vous ne voyez pas, mais on est entouré d'étagères avec des dossiers sur chacune des 700 000 œuvres du musée. Et j'y suis depuis août dernier jusqu'à fin août 2023.
On commence par parler de votre parcours avant d'arriver ici en résidence. À quel moment est-ce que vous découvrez Wikipédia et plus globalement Wikimedia ?
Déjà, à savoir que Wikipédia, ça existe depuis janvier 2001. Et moi, je l'ai découvert pas très longtemps après, en 2004. Alors, un peu par hasard, un accident de la vie, entre guillemets. Mais j'étais normand avant. Je suis arrivé à Toulouse. Je ne connaissais pas grand monde. C'était le début d'Internet. Et en Internet, dans les années 2004, il n'y avait pas encore grand-chose. Et je suis tombé sur ce site un peu par hasard. On ne tombait pas facilement encore dessus à l'époque, mais je cherchais des trucs précis qui étaient dessus. Puis j'y suis retombé deux, trois fois et je me suis pris au jeu. Et donc, voilà, ça fait presque 20 ans que je suis wikipédien bénévole maintenant. Et au fur et à mesure de mes contributions, je me suis rendu compte que Wikipédia, ça ne fonctionne pas magiquement. Ça fonctionne parce qu'il y a des bénévoles et que les bénévoles, il faut les former. Donc moi, vu que j'avais un peu d'expérience, très naturellement, au fil des années, j'ai commencé de plus en plus à aider les autres. Ah ben non, pour faire insérer une image, vaut mieux faire comme ça, comme ça. Pour récupérer tel lien avec telle chose, voilà. Et puis à tel point que j'ai fini par en faire mon métier. D'abord, pendant 2-3 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Ensuite, l'an dernier, j'étais à Clermont-Ferrand. J'étais Wikimédia en résidence à la bibliothèque patrimoniale et à la bibliothèque universitaire de Clermont-Auvergne. Et là, depuis presque un an, au musée de Bretagne.
En tout, j'ai lu, c'est quoi? C'est 18 000 contributeurs bénévoles aujourd'hui sur Wikipédia, qui est le versant le plus connu de Wikimédia, mais c'est plus large que ça, on dit ce qu'il y a autour.
Alors, ce qu'on appelle les projets Wikimédia, c'est un ensemble de près d'un millier de sites, en fait. On pense toujours à une Wikipédia, mais déjà, Wikipédia, ça existe en plus de 300 langues. Il y a la Wikipédia en français, naturellement, en anglais, on y pense aussi, mais en breton, en basque, voilà, plus de 300 langues, hein, plus que de nombre de pays dans le monde. Et il n'y a pas que Wikipédia, il y a aussi sur la même déclinaison d'encyclopédie. Parmi les plus connus et les plus actifs, et les plus intéressants hein, pour les personnes qui veulent le lire aussi, évidemment, il y a le Wiktionnaire, un dictionnaire. On a aussi Wikimedia Commons, que les gens connaissent sans le savoir, puisque c'est là où sont stockées toutes les images. On a Wikisource, une bibliothèque en ligne, Wikidata sur la data, et etc., etc., tout un tas de déclinaisons.
en tant que contributeur à Wikipédia, Wikimedia, quand vous étiez bénévole ou aujourd'hui, quels sont vous vos sujets de prédilection ?
En fait, moi, ma spécialité, c'est vraiment plutôt aider les autres. Mais il m'arrive quand même souvent de retomber sur ce que j'appelle, entre guillemets, des vieilles pierres. Hein. Donc le patrimoine, et puis surtout ce qu'on appelle à tort le petit patrimoine, voilà, le genre, de, par exemple, de menhir qui serait détruit à Carnac parce que les gens ne savent pas qu'ils existent. Ben, c'est ça qui m'intéresse le plus, de faire découvrir des choses qui sont aussi intéressantes, qui sont parfois méconnues. Ah, la patère de Rennes. J'ai pas encore fait grand-chose. Alors c'est un objet qui devrait être conservé au musée de Bretagne, normalement, mais qui, en fait, pour des raisons historiques, est parti à Paris il y a très longtemps, dès le XVIIIe siècle, mais qui est quand même un des objets en or massif les plus grands, les plus beaux qui a été trouvé, de l'époque romaine, peut-être même de l'Europe, en fait, et qui a été trouvé à Rennes, et qui est parti à Paris, parce qu'il était justement aussi beau que ça. Mais du coup, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de photos, donc j'ai ajouté un dessin d'époque, et peut-être que je ferai encore 2-3 autres améliorations. Je suis en train de regarder la bibliographie. Quelle document parle de cet objet pour pouvoir écrire l'article.
Alors comme vous avez un peu créé votre profession là, de Wikimédien, on est d'accord, il n'y en a pas d'autres en France ?
Alors, j'ai réinventé le métier, quelque part, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années dans le monde, et un des premiers, d'ailleurs, c'était au château de Versailles, il y a 10 ans. Donc je ne suis absolument pas le premier en France. Mais ça a été oublié, pour une raison X ou Y, les gens n'ont pas vu l'opportunité. Il y a eu quelques résidences aussi à Lyon, dans différents endroits. Il y en a eu 5 ou 6 en France en 10 ans. Et puis là, depuis presque 2 ans, il y a eu moi à Clermont-Ferrand, re-moi à Rennes. Mais il y en a aussi 3 en université actuellement, donc à Rennes, encore une fois. Il y a un tropisme rennais. Et Bordeaux et Toulouse ou aussi dans leur université, un Wikimédia en résidence. Donc c'est quelque chose qui revient et qui, j'espère, va perdurer longtemps.
Là, on se retrouve plutôt sur la fin de votre année. À quoi ont ressemblé les mois qui viennent de passer ici ?
Déjà, globalement, mes deux grandes missions, moi, je contribue. Et d'ailleurs, en fait, par contribuer, ça veut dire beaucoup de choses différentes, parce que ça veut souvent dire commencer par lire un article. Parce que s'il y a des manques, s'il y a des choses à mettre à jour, à corriger, encore faut-il connaître l'article. Je ne connais pas tout, la Wikipédia en français c'est 2,5 millions d'articles, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont liés de près ou de loin au musée de Bretagne, des milliers qui sont liés à la Bretagne en général, donc j'ai lu les plus intéressants, j'ai corrigé, j'ai pu par exemple apporter des photos issues des collections du musée de Bretagne là où elles manquaient. Je ne me limite même pas à la Bretagne d'ailleurs, parce que dans les collections on a des photographes bretons qui ont parcouru le monde et fait des photos de la planète finalement. Donc moi, dès qu'il y a un lien avec le musée de Bretagne, j'ai pu l'exploiter. Et ça, c'est à peu près un quart, un tiers de mon temps, ça dépend des journées. Et ensuite, le plus important, c'est finalement la passation de mon expérience. C'est que une résidence, comme une résidence d'artiste ou une résidence de médecine, c'est sur un temps court, un an. Et l'idée, c'est de lancer une dynamique, de planter des graines pour que d'autres personnes, en l'occurrence mes collègues, puissent en partie au moins continuer sur les fondations que j'ai posées. Il resterait tellement de choses à faire.
C'est infini, quand même.
C'est infini. Parce que de toute façon, il y a toujours des choses. Il y a tous les 6 mois une nouvelle exposition au musée de Bretagne qu'il faudra mettre à jour. Donc je ne mettrai jamais à jour tout ça. Le musée de Bretagne, c'est... Alors on ne sait même pas exactement combien d'un objet, mais on a au moins 700 000 objets au musée de Bretagne. Notamment beaucoup de photos, de négatifs anciennes qui sont inestimables. Mais j'ai pas pu trouver tous les articles Wikipédia où elles auraient pu être pertinentes. Et il y en a encore beaucoup. Mais bon, je me dis que je laisse un peu d'exercice et de travail pour mes collègues pour après. L'article Rennes, je ne suis même pas sûr d'être vraiment passé dessus en lien avec le musée. Sur Wikipédia, on peut toujours aller dans l'historique et voir qui a écrit. Et je suis passé, mais j'ai pas dû faire grand-chose. Mais c'est un peu aussi ma stratégie, c'est de passer un petit peu sur chaque article et faire ici et là des petites améliorations, vraiment. Finalement, c'est pas parce que je suis Wikimédia en résidence que j'ai plus de poids dans la communauté. J'ajoute comme n'importe qui. Donc là, en l'occurrence, il y avait une phrase où il y avait pas de... qui manquerait d'une référence. Donc j'ai indiqué à mes collaborateurs Wikimédiens, Wikimédiennes, d'ajouter une référence. Le musée de Bretagne, ça fait déjà plusieurs années, en fait, avant même mon arrivée en tant que Wikimédia en résidence, qu'ils ont une démarche globale d'ouverture et de partage des collections. Un musée, c'est un lieu où les gens viennent et peuvent découvrir des choses. Il y a un musée physique où il y a quelque chose comme 5 000 objets présentés, mais sur les 700 000 objets du musée, tout n'est pas visible. Et ça a commencé donc du coup, très logiquement, par une photothèque, un portail des collections en ligne, depuis 2017, si je ne me trompe pas, qui permet de voir les objets qu'on ne voit pas justement habituellement. Et toute cette démarche, qui a été couronnée finalement quelque part par mon arrivée en tant que Wikimédia en résidence, a été en plus reconnue au niveau national par l'association Wikimédia France, qui a donné ce qu'on appelle le label culture libre, qui a été donné à une quinzaine d'institutions en France. Et en plus, assez fièrement, on peut dire qu'on est une des deux institutions en France à avoir eu le label or, le meilleur des trois niveaux de ce label.
Sur les, peut-être les travers ou les reproches qu'on peut adresser surtout à Wikipédia, quand ça a commencé, c'était plutôt notamment dans le milieu scolaire, on disait faites attention, revérifiez vos sources, c'est toujours le cas, même si comme il y a beaucoup de contributeurs, ça s'est affiné sur ce qu'on peut y lire et c'est devenu fiable, on est d'accord là-dessus ou pas ?
Alors moi je conseille toujours de prendre du recul. Le dicton que j'utilise, c'est si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est sans doute trop beau pour être vrai. Faut toujours faire attention à ce qu'on lit. Il peut toujours arriver qu'au mauvais moment, on tombe sur un mauvais article. Même si c'est amélioré, c'est jamais parfait. Et tout comme d'ailleurs une encyclopédie papier qui n'est pas à jour, il peut toujours y avoir un problème. Donc moi, je conseille toujours de se méfier en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous êtes le soir attablé au comptoir à dire « Oh, quel âge a telle personne ?» Regardez Wikipédia, il n'y a pas d'enjeu s'il y a une erreur. Si vous en êtes à rédiger votre thèse, n'utilisez pas Wikipédia comme source ou juste comme première approche et allez creuser derrière.
L'autre reproche, il est lié à, au fonctionnement même de Wikipédia et à la nature des contributeurs qui sont surtout des hommes, a priori plutôt des hommes blancs, éduqués. Et donc, ça a un impact sur ce qu'on y lit en fait sur Wikipédia. Oui.
Alors, c'est vrai d'ailleurs d'Internet en général.
Qui a été conçu d'ailleurs, plutôt par des hommes blancs éduqués.
Voilà. On sait que même des sites comme Twitter, Facebook, etc., les réseaux sociaux, on sait que les femmes sont minoritaires, voire très minoritaires. Et nous, sur Wikipédia, alors... Nous, on ne traque pas du tout nos contributeurs ou nos lecteurs, donc on n'a pas le chiffre précis. On a eu des études ponctuellement et qui disent qu'effectivement, on est à peu près dans la communauté de contributeurs et contributrices, à peu près à 20% de femmes. Et, comme par hasard, dit-il sur un ton ironique, dans les biographies de personnes, dans les articles Wikipédia, dans les contenus, on retrouve aussi 20% de femmes. Corrélation n'est pas causation, mais on se doute très bien que tout le monde sur Wikipédia est bénévole, contribue sur ce qu'il veut bien. Donc, les gens contribuent sur ce qu'ils aiment, et souvent, c'est des hommes blancs qui écrivent sur des hommes blancs. Ça se voit, ça se vérifie pour le biais de genre. Ça se vérifie aussi, encore plus douloureusement, entre guillemets, sur les articles de la moindre commune de France de 10 habitants à 3 pages d'articles dans Wikipédia. Un département entier d'un pays africain, lui, a 3 lignes. Et c'est vrai pour tout un tas d'autres prismes de vue, des angles de vue qui sont un peu biaisés. Heureusement qu'il y a... entre 15 et 20 000 contributeurs, contributrices chaque mois sur la Wikipédia. Il faudrait juste rééquilibrer un peu plus certains points. Et du coup, on est toujours demandeur dans la communauté d'avoir des personnes qui viennent s'engager et corriger ça. Alors, le système est autocorrectible. Plus qu'un savoir des choses elles-mêmes, j'ai une connaissance de où trouver l'info. Je ne connais pas les 700 000 objets du musée de Bretagne, mais je sais globalement ce qu'on y trouve. Donc là, par exemple, je savais aussi que Yvonne Jean Affen, qui est une artiste bretonne, n'avait pas de photo et je savais où chercher.
C'est vous qui avez rajouté la photographie, là.
Ça, c'est une photo qui vient du musée de Bretagne, effectivement.
Alors vous, ça a pris une place qui est quand même hyper importante dans votre vie. Vous le faites même à côté du travail.
C'est une passion, un sacerdoce. J'utiliserai pas le mot drogue, mais... Vu le temps que j'y passe, certains pourraient le qualifier comme ça. Effectivement, moi, j'y passe maintenant mes 7 heures de journée de travail tous les jours et je rajoute une heure ou deux le soir parce que ça me manque quand même. Et il y a tellement de choses à faire, en fait. C'est là le côté quand même addictif, un peu. On a commencé à écrire quelque chose. J'ai fait les églises du nord de l'Ille-et-Vilaine. Ah, il faut que je fasse le sud maintenant ou tel département. Et comme une pelote qu'on détricote, c'est jamais fini.
Alors pourquoi cette forme-là et, je sais pas moi, l'écriture sous forme littéraire, dans un livre, un documentaire, pourquoi ce choix de Wikipédia ?
Non, moi je suis très Wikimédia. C'est le proverbe « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Moi je pourrais pas écrire un article Wikipédia tout seul du début à la fin. Il y a le texte, la relecture du texte. J'ai tendance à semer plus de fautes d'orthographe que je n'en corrige, malheureusement. Je fais des photos correctes, mais sans plus. J'ai pas forcément accès à tous les points de vue. Et c'est ça l'intérêt de Wikipédia, et c'est ça qui fait qu'on y reste, finalement, c'est qu'on y reste aussi pour une communauté où, moi, je vais souvent lancer des squelettes d'articles, lancer des propositions. D'autres personnes vont venir corriger, compléter, dire « t'as bien travaillé la partie géographique, mais il manque la partie historique ». Et chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice. Et on est très satisfait à la fin de voir qu'on a construit quelque chose qu'on n'aurait jamais construit seul, qu'on a construit ensemble.
C'est une communauté qui se rencontre parfois in a real life.
Pas tant que ça, finalement, hein, parce qu'il y a sur la Wikipédia en français voilà, à peu près 20 000 personnes. Dans la région rennaise, on est une quinzaine et on est 4 ou 5 à se réunir de temps en temps, notamment le jeudi soir, pour discuter dans un milieu plus convivial, on va dire.
Là, en 2023, on est à un moment où Internet, dans son usage le plus massif, est surtout marqué par la place des réseaux sociaux dans notre vie. Et à côté de ça, il y a Wikimedia qui, plutôt, a été ce qui s'est fait de plus beau dans le contributif, le participatif et lié au logiciel libre. Vous, quel est votre regard sur Internet en 2023 ?
Déjà, moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être sur Internet depuis 20 ans. Donc, j'ai bien vu des évolutions. Moi, je suis assez optimiste. Effectivement, il y a des gens qui utilisent mal ou à mauvais escient. Voilà, on parle même de fake news et de tordre des résultats d'élections avec les réseaux sociaux. Je me dis qu'il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des presses vulgaires, des gens qui écrivaient des graffitis sur les murs de Pompéi. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Internet démultiplie ça à une dynamique un peu différente. Je reste globalement optimiste parce que dans voilà, tout cet marasme d'Internet, on trouve quand même des diamants, des sites qui donnent espoir en l'humanité de façon un peu grandiloquesque. Voilà, dont Wikipédia, mais on peut aussi citer OpenStreetMap pour les cartes ou tout un tas du monde du logiciel libre et des contenus libres qui prouvent que avec les bonnes conditions, les gens peuvent encore construire toujours des choses qui vont vers l'avant et qui, moi, me rendent personnellement optimiste. Voilà.
Apart par Three Some Sisters. C'est un morceau extrait de l'EP Rope qui est sorti en 2016 sur le label Le Ciel aussi, le troisième et dernier EP de cette formation parisienne, un quatuor passé notamment sur la scène des transmusicales en 2015 et qui a ensuite fait émerger Sophie Fustek alias La Chica qui officie désormais en solo. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B qui vit sa dernière semaine avant les congés d'été. Je le dis régulièrement, si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association ou autre type de structure, tant que la visée n'est pas purement lucrative, vous pouvez m'en informer à l'adresse lucie@canalb.fr. Il va y avoir une pause sur cette émission d'information locale, mais je serai de retour à la rentrée, alors vous pouvez toujours m'envoyer vos suggestions de sujets. Et l'émission d'information locale touche à sa fin, mais avant ça, à chaque jour, on termine avec une recommandation de choses à vous mettre dans les oreilles, à voir ou bien à vivre. Là, on annonce la prochaine conférence du Bureau des Temps, ce service de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, qui cogite sur le lien entre nos rythmes de vie et les pratiques des habitants. Cette conférence, eh bien, ça se passe mardi 27 juin à partir de 19h15 à l'Hôtel de Ville. Thème exploré, le temps du début de la vie, parentalité et petite enfance, là où tout commence. Pour en parler, la ville accueillera la sage-femme et autrice Anna Roy, que vous avez peut-être déjà croisée dans l'émission La Maison des Maternelles. À ses côtés, on retrouvera l'association Parents et Féministes installée à Rennes, mais aussi dans d'autres villes de France. 1000 jours, soit 3 ans, le temps de l'arrivée d'un enfant, depuis la grossesse et au cours de ses premières années, représente une période inédite pour l'enfant, mais aussi pour ses parents. Un temps parental qui concerne des millions de personnes et qui s'inscrit dans un paradoxe entre accélération du temps et ralentissement du rythme de vie, avec également des enjeux importants de santé publique et d'égalité sociale. Comment favoriser une juste répartition de ce temps du début de la vie? Comment accompagner collectivement les parents dans cette période fondatrice? Des questions passionnantes auxquelles le public pourra trouver des éléments de réponse dans cette conférence organisée mardi soir. C'est un événement gratuit, mais sur inscription via le site metropole.rennes.fr. Je vous laisse avec un extrait du reportage réalisé par Elvire Moreau, volontaire en service civique. Reportage diffusé au début d'année 2023 dans cette même émission. Elvire avait assisté au premier ciné bébé organisé à l'Arvor par l'association Parents et Féministes, association qu'on représente.
Je suis Amandine Ancevitch, je suis cofondatrice de l'association Parents et Féministes. Parents et Féministes, c'est une association qui a un peu plus de 3 ans, qui est rennaise, mais qui a une activité nationale, principalement en Ile-de-France et à Rennes. C'est une association qui s'est formée par la rencontre de mères qui avaient une réflexion féministe, soit ancienne, soit récente, liée à leur maternité, et qui en tout cas étaient en colère contre cette période-là et la façon dont la société l'organise et tout ce qui n'est pas dit et ce qui est invisibilisé et normalisé alors que c'est une période qui est extrêmement dure. On se retrouve toute seule à s'occuper d'un bébé alors qu'il faudrait qu'on puisse se reposer. Donc on a eu une première réflexion importante sur l'absence du congé paternité, ou en tout cas d'un congé paternité digne de ce nom. Donc on a beaucoup milité là-dessus. On a une action donc de plaidoyer en direction des médias et des politiques. On a aussi des actions de sensibilisation, conférences pour diffuser la réflexion et l'analyse féministe de la parentalité et voir en quoi on peut penser des parentalités, des politiques publiques de parentalité qui soient pas vectrices de mal-être, d'inégalité, mais à l'inverse, plutôt d'émancipation et d'égalité. Et puis l'autre axe, c'est un axe vraiment très terrain, parce que nous, on a tout à peu près souffert de ça, de cet isolement-là, et en discutant avec des personnes engagées et beaucoup plus âgées que nous, on s'est aperçu l'entre-femme et l'entre-personne concernée, ça, c'était vachement important. Donc on a mis en place des groupes de parole entre mères, pour le moment exclusivement, des cas féministes, donc des moments conviviaux pour les parents en mixité. Et puis là, le ciné-bébé, donc une fois par mois. Du coup, à Rennes, on en est à 3 rendez-vous par mois. dans trois endroits différents, donc à la maison de quartier La Touche pour les groupes de parole, au Jeu de Pommes à Sainte-Anne pour les cafés féministes et le ciné à l'Arvor à partir d'aujourd'hui.
C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.